bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués encore. Bien, nous allons reprendre notre évangile de Jean. Alors, évangile de Jean, c'est le chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est le paragraphe. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce texte. Nous allons le lire, vous allez voir. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà. Donc c'est un très grand texte, il y a beaucoup de choses. Si vous regardez, il y a au moins 3 ou 4 grandes idées générales, puissantes et fortes. Je voudrais reprendre un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai dit les fois précédentes. Sur le premier verset du chapitre 14, il est dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » En fait, si on se replace dans le contexte, le Seigneur Jésus va être crucifié. Ce repas qu'il fait, c'est le repas de la Sainte Cène. Donc, il y a un très long discours pendant ce repas. C'est chapitre 13, 14, 15, 16 et 17. Le Seigneur Jésus est arrêté au chapitre 18. Donc, tous ces chapitres, c'est ce qu'il a enseigné au cours de ce dernier repas. Alors, il y a un caractère de solennité. Il y a la trahison de Judas, qui est mal perçue par les disciples. Ils n'ont pas très bien compris ce qui se passait. Mais néanmoins, il y a la pensée d'une catastrophe. Parce que le Seigneur Jésus, dans ses paroles, laisse entendre que les choses ne vont pas bien se passer. Alors, quoi qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'il est en train de leur dire, néanmoins, ils comprennent qu'il y a quelque chose de dramatique qui va avoir lieu, que c'est un tournant dans leur relation avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il y avait les choses, il y a un avant, il y aura un après. Donc, tout ça, ils ont le cœur troublé. Et alors, le Seigneur Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est vrai que à l'instant même où le Seigneur donne ses paroles, une impression de quelque chose, d'une catastrophe. Mais quand le Seigneur Jésus va être arrêté, qu'il va être jugé, condamné et crucifié, et mis au tombeau, alors là, tout va s'effondrer. Pour l'instant, ce n'est qu'une impression. Mais les moments les plus dramatiques sont à venir, et même dans un avenir très proche. La nuit ne se terminera pas que tout cela arrive. Alors le Seigneur Jésus les avertit et leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas. » Vous allez voir des choses qui vont à l'encontre de vos espérances. Vous avez cru quelque chose, vous avez attendu quelque chose, vous avez espéré en quelque chose. Et tout va sembler se désintégrer, se liquéfier et disparaître pour faire place à la catastrophe, au cataclysme dans votre vie. Alors, dans ce moment-là, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire que dans le moment, et c'est vrai que cela s'adresse aussi à nous qui sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, c'est vrai que nous avons des moments difficiles, des moments de catastrophe, des moments où les choses changent, et il y a un avant, il y a un après. Je me rappelle avoir un jour parlé avec mes enfants, et je leur ai dit, c'est quand il y avait le 11 septembre 2001, si ma mémoire est bonne, c'est quand les tours se sont effondrées, je les ai pris à part. Je leur ai dit, mes enfants, il y a un avant et il y a un après. Ça n'arrive pas dans la vie de tous les hommes que l'on voit un avant et un après. Qu'il y a une catastrophe qui fait que les choses sont différentes après. Il n'y a plus rien de pareil. Tout devient différent. Il y a de grandes guerres qui ont eu lieu en Europe et dans le monde. Il y a un avant, il y a un après. Donc toutes ces choses, c'est dans notre vie chrétienne, souvent nous pouvons dire, il y avait un avant et maintenant il y a un après. Quand tout devient différent, quand tout change, quand tout semble perdre sa solidité, quand les bases même de nos espérances, tout ce qui était notre réconfort, tout s'effondre, eh bien, il nous reste toujours Dieu. Vous savez, il y a ces paroles, les premières paroles de la Genèse et les premières paroles de l'évangile de Jean, au commencement, Dieu. Même dans toutes les péripéties de l'histoire du monde, dans tout ce qui est survenu, tout ce qui est arrivé, tous les événements de l'histoire, tout ce qui s'est passé, même la chute de Satan, le péché, la désobéissance, le déluge et tout et tout et tout, Dieu était au commencement et il est toujours là et il sera toujours là. Même dans les moments les plus difficiles, les plus dramatiques, Dieu reste toujours le même. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses ne changent pas. Nos petites vies peuvent changer. Elles peuvent être très déstabilisées. Elles peuvent même devenir très différentes. Même nous pouvons perdre tous nos amis. Nous pouvons avoir le ciel s'obscurcir, nous pouvons voir les choses complètement déroutantes, mais Dieu est toujours là. Il reste le même. Tel il était au commencement, tel il est aujourd'hui, tel il sera plus tard. Et même dans ces moments où les apôtres, les disciples, eh bien, voyaient leur meilleur ami, parce que, vous savez, je ne peux pas m'imaginer, j'essaye de m'imaginer ce qu'était le Seigneur Jésus dans sa vie terrestre, c'est-à-dire dans ses relations avec les disciples, comment il leur parlait, comment il prenait soin d'eux, comment il s'occupait d'eux, comment il leur disait des paroles. Il y a probablement, c'est certainement des multitudes de paroles que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées et qui ne sont pas écrites dans les évangiles, mais j'imagine un disciple découragé, et le Seigneur le prend à part et l'encourage et lui dit une parole, c'est où il lui fait un reproche sur quelque chose. Les paroles que nous avons dans les évangiles au sujet du Seigneur Jésus et celles qu'il a prononcées ne sont probablement pas les seules. Il a encouragé beaucoup de monde, beaucoup de personnes découragées, beaucoup de personnes qui étaient dans un très grand désarroi. Il a pris soin de ces personnes. Et tel il est toujours, tel il sera toujours. Notre Dieu reste le même. Et dans ces moments, eh bien, il leur dit, vous allez voir des choses terribles, vous ne les comprendrez pas. Il ne leur dit pas comme ça, vous ne les comprendrez pas. Mais il leur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Malgré toutes les apparences, je tiens les choses en main. Même si Christ était crucifié, même s'il était mort sur la croix, même s'il a été enterré, néanmoins, il avait toutes choses dans sa main quand même. Satan semblait être le triomphateur, il semblait être celui qui avait le dernier mot, celui qui avait finalement eu raison de tout. Eh bien finalement, malgré les apparences, le perdant, c'était Satan. C'est pour cela que ces paroles sont d'une si grande importance. Quand tout semble perdre sa consistance, tout semble disparaître, plus rien ne ressemble à ce que ça a été, eh bien, Dieu, lui, ne change pas. Et il tient quand même toute chose dans sa main. Vous savez que la plus grande défaite de Satan était si proche de sa plus grande victoire. Il semblait avoir la plus grande victoire qu'il ait jamais eue. Il avait fait crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Et en le faisant crucifier, eh bien, il a eu la plus grande défaite. Et ça a signé son arrêt. Il est en enfer. Non, il n'est pas tout de suite. Mais on peut être c'est tellement certain qu'il va y être qu'on peut dire il y est. L'enfer est préparé pour lui. Il y sera. Ça, c'est certain. Parce que à la croix, Christ a triomphé de lui. Alors les disciples, eux, ne voyaient que l'extérieur des choses. Ils ne voyaient que le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Ils ne le voyaient que agonisant sur la croix. Mais ils ne voyaient pas tout ce qu'il y avait derrière. L'immensité du triomphe de Christ à la croix. Combien dans cette crucifixion, la lutte était terrible. Et puis finalement, elle se traduisait par la victoire définitive sur Satan. Si bien que l'on peut dire que sa victoire devient notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce que Christ a triomphé de toutes les puissances de l'ennemi à la croix. Alors que cela semblait pour les disciples le moment le plus catastrophique qui existe, c'était la chose la plus déroutante, c'était ce qu'ils n'auraient même pas, dans leur plus grande, comment dire, pessimisme, ils n'auraient jamais imaginé pareille chose. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ triomphait à ce moment-là, malgré les apparences. Et les apparences sont souvent trompeuses. Si vous prenez l'histoire biblique, vous regardez depuis le commencement, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez le nombre de fois où les choses, ceux qui sont croyants dans le vrai Dieu, qui sont les vrais croyants, eh bien, sont donnés perdants. Et puis finalement, c'est eux qui gagnent. Regardez le peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient quelques millions en Égypte. Et puis le pharaon, mais c'était l'homme tout puissant de l'époque. L'Égypte, c'était la première puissance mondiale de cette époque. Il y en avait une autre, hein. Il y avait la Chine, mais ils n'avaient pas beaucoup de contacts. Mais c'était la grande puissance de l'Orient. Et puis il y avait toutes les armées, il y avait une économie puissante, il y avait un savoir-faire, il y avait des multitudes de choses. Et le peuple d'Israël était esclave. Et puis, un jour, eh bien, l'Égypte a été vaincue. Et le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Contre toute imagination, toute espérance, le peuple n'y croyait pas. Ils avaient du mal à imaginer qu'il puisse être un jour libre. Et puis, 400 ans d'esclavage, vous imaginez ? 400 ans d'esclavage, ça marque, hein. Il a fallu pour Israël plus d'une génération pour effacer cela. Mais malgré tout, avec la puissance de Dieu, le pharaon était vaincu. Ses armées se sont noyées dans la mer Rouge. L'économie de l'Égypte était une ruine. Après les 10 plaies d'Égypte, l'économie était ruinée. L'Égypte ne pouvait plus... Vous savez, l'Égypte s'est divisée en 20 provinces qui avaient un gouvernement autonome. C'était un peu une Europe moins le traité de Rome. Alors c'était vraiment des 20 nations qui étaient en Égypte, qui se battaient les unes avec les autres. Plus de puissance, parce que Dieu est intervenu. Et combien de fois, alors que tout était dramatique, Dieu est intervenu. Malgré la puissance de l'ennemi, regardez l'histoire de David et Goliath. Goliath était un homme impressionnant, plus de 3 mètres de haut. Et puis c'était un homme de guerre, c'est-à-dire qu'il était costaud. On décrit ses armes, le poids de ses armes, on se dit, mais comment un être humain pouvait supporter et porter un tel poids? C'était pas de l'acier, c'était de l'airain. Alors c'était encore beaucoup plus lourd pour une moins bonne efficacité. Et puis, un petit caillou, une fronde, un petit caillou. Un petit jeune homme, voilà. C'était la fin de ce géant. Donc la puissance est du côté de Dieu. pas du côté de l'homme, pas du côté des apparences, pas du côté « Ah, c'est certain qu'on va gagner, c'est certain que… » Et vous regardez, vous entendez ce monde faire des pronostics, évaluer les circonstances, se projeter dans l'avenir, nous ferons ceci, nous aurons des traités, nous allons organiser, nous allons. Mais ils sont vaincus. C'est clair, ils ont perdu, parce qu'ils sont du mauvais côté. Et souvent, c'est une réflexion que je me fais ces derniers temps, souvent. Donc, mais il y a l'argent du côté du monde, il y a les médias, il y a la puissance militaire, il y a le gouvernement, il y a l'autorité, il y a des multitudes de choses. On pourrait dire que tout est du côté du monde. Et pour nous persuader, et pour nous contrôler, et pour nous ceci et cela. Et si bien que maintenant, mais vous passez devant une caméra et ça y est, vous êtes filmé. Et vous êtes fiché et qu'est-ce qu'on en sait? Vous êtes allé sur Internet, vous avez vu, on sait ce que vous êtes, ce que vous faites, où vous allez. Mon téléphone portable me dit que tous les mois, je fais à peu près 20 km à pied. C'est beau, hein? Oui, mais attendez, comment il le sait? Mais il sait aussi que je suis allé à Somain et combien de kilomètres j'ai fait en voiture. C'est mon téléphone portable, il me le dit. Je me dis quand même, et je suis contrôlé, je suis surveillé. Et ça, c'est ce que je peux savoir, mais tout ce que je ne sais pas. Je pense que ce que l'on sait est peu de choses à côté de ce qu'on ne sait pas. Mais ce monde est vaincu. Christ est le vainqueur. Il est le Tout-Puissant. Il a vaincu Satan. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même si Satan paraît le plus puissant, même s'il y a tout, même si, ajouté à ajouté, eh bien, il est vaincu quand même. Parce que sa fin va arriver. Et quand il va paraître le plus puissant possible, sa fin va venir en un éclair. Ça va être fini. C'est quand vous regardez l'histoire, vous lisez l'Apocalypse, vous lisez un peu tout ce qui concerne l'Antichrist. Bon, et puis vous voyez, à un moment, ben, il règne sur le monde entier, parce que il va régner 7 ans, mais 7 ans de guerre, de conquête, où il va conquérir le monde. Mais quand il possédera le monde, enfin, ce que tous les antichrists de ce monde, depuis les Césars ou les Nebuchadnezzar et tous les Assyriens et tous ces gens ont voulu faire de conquérir le monde, lui va le réaliser pour une heure. Une heure. Et viendra sa fin. Enfin, il va dire, je règne sur le monde. Et ce sera la fin. C'est même pas la jouissance de ce règne sur ce monde. Il ne peut pas dire j'ai régné 10 ans. Non, même pas. Un seul va régner sur le monde intégralement, c'est Christ, pendant 1000 ans. Ce que l'Antéchrist n'a jamais pu faire, Christ va le faire en une fois et sur 1000 ans. C'est-à-dire, si vous voulez régner plus, eh bien, il régnerait plus. Il a fixé 1000 ans parce que ce monde n'est pas une fin en lui-même. Ce n'est qu'une étape. C'est donc il ne règne que 1000 ans, c'est tout. Il n'y a pas nécessité d'établir quelque chose de plus durable que ça. Mais celui qui a la victoire, c'est Christ. Prenez courage, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la troisième fois que j'en parle. Donc les choses parfois ont besoin d'être répétées, surtout les vérités essentielles, les vérités primordiales, celles qui dominent et qui doivent dominer. C'est malgré toutes les apparences, Christ est vainqueur. Et je peux dire que au cours de mon ministère, j'ai souvent entendu des chrétiens se plaindre. C'est quand je ne me suis pas plaint moi-même. Hein. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne se plaint jamais. Je me suis plaint moi-même aussi. Donc on est tous dans le même lot. Mais j'ai même entendu des prédicateurs prêcher la défaite, le découragement. Et je me dis, mais comment c'est possible que le pasteur, lui, n'encourage pas, il décourage. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on est comme ça, on est humain. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ est vainqueur. Prenez courage. Ne vous découragez pas. C'est vrai que les choses semblent arriver à leur terme. Elles semblent être plus difficiles à vivre que par le passé. Elles semblent beaucoup de choses. Mais elles ne font que sembler. Parce que j'ai lu la semaine dernière, bon, j'ai pas fini, mais c'est un livre sur les Albigeois et les Cathares. Et c'est l'histoire un peu de la croisade. Ces chrétiens ont été persécutés pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on les a massacrés. Il y avait des guerres, des pillages, si bien que dans le sud de la France, la capitale du sud, c'était Toulouse. Toulouse était plus riche que Paris. Et le roi de France était pauvre à côté du comte de Toulouse. Le comte de Toulouse était un homme très très puissant. Ces chrétiens persécutés, ces chrétiens qui avaient plus qu'à se sauver dans les forêts, dans les bois, dans les marécages, on les pourchassait comme des bêtes. Eh bien, finalement, un jour, on est toujours là, parce qu'on descend d'eux. Il a pu être tué 1 million de personnes sur 40 ans. 1 million. C'est rien que la ville de Toulouse, c'est 60 000 personnes ils ont tué tout le monde. Voilà. Vous avez rappelé la phrase de Simon de Montfort. On lui a demandé, mais comment va-t-on savoir ceux qui sont catholiques et ceux qui ne le sont pas? Eh bien, il a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens.
Une
Et on a
menace a
écouté ce
été
qu'il a dit. Il y
détectée.
en a 60 000 qui sont morts, parce que la population de la ville de Toulouse, c'était 60 000. C'est 1 million de personnes au Moyen Âge, alors que la population totale de la France était 10 millions. Alors le monde croyait qu'il avait triomphé, que l'Église avait baissé les bras, que l'Église était anéantie. Et l'Église est toujours là. Et ses rois ont disparu. On en parle comme des faits d'histoire. Et en fait, ils n'ont pas forcément une bonne. On n'a pas bonne opinion d'eux. Quand on parle d'un Simon de Montfort et un Amauric de Montfort, c'est deux frères, eh ben, c'est des pillards, des brutes, des bourreaux, des bandits. Voilà, c'est regardé comme cela. Alors que ces chrétiens, eh bien, on se dit, mais quand même, quelle persévérance. Jamais ils n'ont levé une arme contre leurs bourreaux. Ils se sont laissés faire. Et finalement, c'est eux qui ont triomphé. Des siècles plus tard, on peut dire qu'il y avait des chrétiens. Il y avait des personnes qui aimaient Dieu au point de donner leur vie, de perdre leur vie pour leur foi. Ce monde semblait triompher. Ce monde avait les armes. Et quand on regarde les armes qu'ils avaient, on se dit, c'est ridicule. Ils avaient des épées, ils avaient quelques petits canons de rien du tout. Ils se vantaient d'être si forts que ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus fort. Et des millions de fois plus fort. Mais des millions de fois plus fort, c'est pas plus fort que Dieu. Ces gens qui croient qu'ils triomphent parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont ceci et cela, mais ils ont un grand tort, c'est d'être les ennemis de Dieu. Et il ne faut pas être l'ennemi de Dieu. Celui qui est l'ennemi de Dieu est son propre ennemi. Il combat contre lui. Il est dans la défaite parce qu'il emploie des armes humaines contre Dieu, contre ceux qui appartiennent à Dieu. C'est quelque chose, vous savez. La parole de Dieu, je vous répète ce verset, que votre cœur ne se trouble point. Et je voudrais vous encourager, je voudrais que vous regardiez plus haut encore, que vous regardiez vers Christ, que vous regardiez vers Dieu, que vous regardiez non pas vers les circonstances, vers les événements qui sont autour de vous dans votre vie. Et si nous sommes tous dans des moments difficiles, hein, quoi que nous puissions dire. Chacun pourrait, si on l'interrogeait en particulier, dirait, ah ben, pour moi en ce moment, c'est pas facile. Ce n'est jamais facile pour personne. Et à aucun moment. Nous avons toujours des moments difficiles. C'est que ce soit d'une manière, que ce soit d'une autre. C'est différent pour l'un, pour l'autre. C'est différent d'un moment à un autre. Mais nous avons Dieu qui est toujours avec nous. Le Seigneur Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Le monde n'est pas encore, la fin du monde n'est pas encore arrivée, vous savez. Et puis, quand la fin du monde arrivera, eh bien, nous serons pour toujours avec lui. C'est-à-dire que dans ces moments où tout semblerait nous désespérer, eh bien, nous pouvons dire, Christ est toujours avec moi. Toutes choses sont dans sa main. Rien, personne ne peut nous ravir de sa main. C'est impossible. Satan peut rager, ronchonner, il peut déployer toutes les ruses et toutes les séductions et toutes la puissance et tout et tout et tout. Il ne peut pas nous enlever de la main de Dieu. Le plus petit d'entre nous, s'il y a un plus petit, eh bien il est en sécurité dans la main de Dieu qui le protège et qui veille sur lui. Ça ne veut pas dire que Dieu nous épargne les épreuves. Le Fils de Dieu a été crucifié. Alors si lui a été crucifié, il a dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Alors si cela lui est arrivé à lui, s'il a été éprouvé jusqu'à la mort, eh bien c'est possible que cela nous arrive à nous aussi. Et ça arrive à certains chrétiens, que ce soit jusqu'à la mort. Mais en tout cas pour nous, eh bien il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Ce n'est pas dans une fin brusque, mais c'est dans la durée. Il y a des épreuves qui durent. Et même parfois qui durent toute une vie. Je pense à des maladies, à des infirmités, ou à des mésententes, ou à des personnes qui nous persécutent, qui nous harcèlent. Eh bien, tout cela dure et dure et dure et dure. Mais Dieu est toujours avec nous. Dieu ne nous abandonne pas et ne nous abandonnera jamais. Prenez courage. C'est le moment, vous savez, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Il est probable que les choses se soient moins faciles dans l'avenir qu'elles l'ont été jusqu'à présent. On ne peut pas présumer de l'avenir, on ne peut pas faire un pari sur l'avenir. Mais en tout cas, il sera ce qu'il sera, cet avenir. Mais nous pouvons compter que notre Dieu sera toujours avec nous, qu'il va toujours veiller sur nous, qu'il va toujours nous dire, prends courage, ne t'effraie point, ne t'inquiète point, regarde vers moi. Regarde que moi j'ai donné ma vie pour toi. Est-ce que je ne peux pas te garder? Je ne peux pas te soutenir? Je ne peux pas être avec toi? Je ne peux pas être ton meilleur ami? Je ne peux pas être la personne qui ton meilleur confident? C'est notre Dieu. C'est le prenez courage. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas intimider. Parce que Satan essaye toujours de nous intimider. C'est notre ignorance qu'il utilise. On ne sait pas. Et bon, maintenant vous le savez, hein. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Ça fait 3 fois que je parle sur la même chose. Je vais vous dire, normalement, un prédicateur digne de ce nom ne prêche pas 3 fois de suite sur la même chose. Mais pour moi, je ne veux même pas regarder d'être un prédicateur digne de ce nom ou pas. Ce que je désire, c'est dire la vérité. Et la vérité qui est puissante et qui doit être répétée, eh bien, il faut la répéter. Et il faut dire ces paroles, ce verset. Peut-être que vous ne l'aviez jamais remarqué. Vous l'aviez lu des dizaines de fois. Peut-être que vous êtes chrétien depuis, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans ou 30 ans ou davantage. Vous aviez lu ce verset, jamais il vous a marqué plus que cela. Mais maintenant que j'en ai parlé 3 fois de suite, eh bien, vous ne pourrez pas l'oublier. Ces paroles resteront dans votre cœur. Satan pourra vous présenter des multitudes d'arguments. Il pourra essayer de vous impressionner. Mais si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, c'est votre faute. Parce que ce verset, vous le connaissez. Et cette vérité que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, eh bien, elle est vraie pour nous aussi. Elle a traversé 2000 ans. Elle est arrivée jusqu'à nous pour qu'aujourd'hui, nous qui sommes arrivés à la fin d'une époque, eh bien, nous puissions tourner nos regards vers Christ et dire, malgré tout, malgré les circonstances, malgré les difficultés, Dieu est toujours avec moi. Et il me dit, ne crains point. Regarde, c'est que votre cœur ne se trouble point, que ces paroles restent gravées dans votre cœur. Croyez en Dieu, croyez en Christ. Placez votre confiance. Regardez que c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui a toutes choses dans sa main. C'est lui qui connaît la fin des choses. Il connaît leur commencement, il connaît leur suite et il connaît leur fin. Et il sait quand ces choses-là s'arrêteront. Je me rappelle d'une personne qui essayait toujours de me faire beaucoup de problèmes. C'est un jour, je lui ai dit, tant que j'ai une leçon à apprendre, Dieu permettra que tu me persécutes. Mais le jour où ce sera fini, crains pour ta vie. Parce que ce jour-là, Dieu défendra ma cause. Mais j'ai une leçon à apprendre. Et je suis prêt à l'apprendre, même dans les difficultés, même dans les persécutions. Mais mon Dieu saura un jour faire justice. Et il saura dire qui a raison et qui a tort. C'est, vous savez, notre Dieu. C'est le rocher des siècles. C'est Dieu n'est pas un être humain. Bon, c'est, vous le saviez, hein. Mais on ne peut pas le comparer à un être humain. Un être humain, il a des défaillances, il a des faiblesses, il a des lacunes, il a des imperfections, il a des ignorances. Mais notre Dieu n'a rien de tout cela. Tout est dans sa main. Il reste le Tout-Puissant. Si l'ennemi fait quelque chose, c'est seulement avec la permission de Dieu. Si Dieu ne lui avait pas permis, il ne pourrait pas le faire. Donc si Dieu le permet, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. C'est que nous avons besoin de passer par cette étape-là. Et tout dépend de nous si l'étape sera longue ou si elle sera courte. C'est à la vitesse avec laquelle vous allez apprendre la leçon. C'est comme ça. Si vous tardez à l'apprendre, eh bien, vous aurez beaucoup plus de peine et beaucoup plus de temps à passer. Si vous avez appris la leçon rapidement, eh bien, le jour où l'épreuve n'est plus nécessaire, pourquoi est-ce qu'on va garder l'épreuve? Vous prenez un bâtiment. On monte un bâtiment et on met un échafaudage autour. Mais le jour où le bâtiment est construit, il est fini. Ben, on n'a plus besoin de garder l'échafaudage. C'est un élément provisoire. Il est là juste pour la construction. Une fois que la construction est achevée, l'échafaudage n'est plus nécessaire. Quand vous avez appris la leçon de l'épreuve, eh bien, vous n'avez plus besoin de l'épreuve. Et Dieu est sage pour ne pas prolonger l'épreuve au-delà de ce qui est nécessaire. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Il a souffert sur la croix 6 heures. Mais les crucifiés étaient crucifiés et agonisés sur la croix 3 jours. Le Seigneur Jésus n'a pas agonisé 3 jours. Il n'a agonisé que 6 heures. Parce que pour achever notre salut, il fallait 6 heures. Au-delà de ces 6 heures, ce n'était plus nécessaire. Et il fallait, le Seigneur Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'était terminé. C'est parce qu'il avait achevé notre salut. Quand il a dit, tout est accompli, tout était accompli. Il ne pouvait plus que dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et à ce moment-là, il est mort, parce son épreuve était achevée. Notre salut était accompli. C'était terminé pour l'épreuve. On passait à autre chose. Vous savez, c'est très important de savoir regarder vers Dieu et de se poser les vraies questions et d'avoir les vraies réponses. Et de dire, mon Dieu tient toutes choses dans sa main. Mon Dieu a pesé le poids de l'épreuve. Et elle ne sera pas plus lourde et plus difficile que ce qu'il a permis. Ça ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il a permis. C'est aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les difficultés sont humaines, sont limitées dans leur puissance, mais sont aussi limitées dans le temps. C'est Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, aussi bien dans la durée que dans la puissance de l'épreuve. Ça sera toujours dans des limites voulues par Dieu, permises par Dieu, et ça ne pourra pas aller au-delà. C'est pour cela que notre cœur ne doit pas se troubler. Même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. Si c'était impossible, ce ne serait pas sur vos épaules. Alors, c'est possible. Dieu est sage, il est rempli d'amour et de compassion pour nous. Et il sait exactement ce qu'il fait. Et nous pouvons lui rendre grâce pour l'épreuve. Ça, c'est la dernière chose qu'il faut dire, c'est de rendre grâce pour l'épreuve, pour les moments difficiles. Parce que si c'est permis par Dieu, Si c'est voulu de Dieu, alors c'est une bénédiction. C'est une bénédiction cachée. C'est une bénédiction qui ne porte pas ce nom. Mais nous préférons l'appeler épreuve. Nous disons que c'est difficile. Nous disons qu'il y a des contraintes. Nous disons que nous sommes persécutés. Nous disons, mais finalement, c'est notre plus grande bénédiction. Parce que nous n'aurions pas appris certaines leçons d'une autre manière. Je peux vous dire, si on analysait nos bénédictions, eh bien, elles sont liées avec nos plus grandes épreuves. Si tout était facile, imaginez que vous avez une vie facile. Voilà, tout réussi. Vous avez quelques millions d'euros sur votre compte en banque. Vous avez 2 ou 3 maisons. Est-ce que vous connaîtriez Dieu? Est-ce que vous vous soucieriez de Dieu? Et moi je vous dis, si vous aviez seulement 1 million d'euros sur votre compte, hein, est-ce que vous diriez je vis par la foi? Est-ce que vous parleriez de la foi, de compter sur Dieu, de regarder à Dieu? Soyons raisonnables. Heureusement qu'il y a les épreuves. Heureusement que nous n'avons pas des millions d'euros sur notre compte. Heureusement que nous n'avons pas les biens de ce monde. Heureusement que nous n'avons pas le pouvoir de ce monde. Que nous n'avons pas les médias, que nous n'avons pas tout cela. Parce que nous pouvons compter sur Dieu. Nous aurions toutes ces choses. Mais où serait la prière? Où serait la foi? Il suffirait de mettre 1 million sur la table et on ferait une campagne d'évangélisation, on noierait le pays sous une propagande de ce que nous croyons, et voilà. Et on se dirait, pour la forme, on aurait une prière, mais le cœur n'y serait pas, parce que nous aurions les moyens financiers, les moyens matériels, la puissance de ce monde. Nous ne l'avons pas, alors nous sommes bien obligés de compter sur Dieu, et de regarder à Dieu, et d'avoir la foi, et de prier, et de persévérer dans la prière. Ah, je vous dis, heureusement qu'il y a les épreuves, heureusement qu'il y a les limites, parce que sinon, nous ne serions des chrétiens que très vacillants, très faibles. La moindre épreuve qui surviendrait, nous serions cassés. Vous savez, dans une forêt, il y a des arbres qui sont très grands, parce qu'ils ont peu de lumière. Donc pour atteindre la lumière, ils sont obligés de grandir énormément. Et puis le sous-sol est rempli d'eau. C'est parce que c'est très humide, comme les arbres sont très hauts, ça ne sèche pas en dessous. Mais dès que vient un coup de vent, tous ces arbres sont par terre. Et vous avez une hécatombe. Hein. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est tombé, c'est qu'ils sont tous tombés. C'est comme la main d'un géant qui est passé et qui a appuyé sur l'herbe et qui l'a froissée. Là, c'est toute une forêt ou toute une partie de la forêt qui est écrasée par un vent, par je ne sais quoi, une tornade. Et parce que tout était facile. La lumière était là, l'abondance d'eau, l'abondance de tout. Mais le jour où l'épreuve est arrivée, eh bien, ils sont tous par terre. Il n'y en a pas un qui reste debout. Et c'est pour cela que notre vie chrétienne n'est pas facile. C'est pour cela qu'il y a des difficultés. Parce que Dieu veut que nous soyons affermis, que nos yeux, que nous apprenions à compter sur lui, à vivre pour lui. La marche par la foi est une marche digne de Dieu. C'est Dieu qui nous a demandé de vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. C'est pas par la facilité, pas par les moyens de ce monde, c'est par la foi. Et la foi, c'est de regarder à Dieu quand tout est difficile, quand plus rien ne semble cohérent, quand les choses semblent contradictoires, quand Dieu est remis en question, quand le monde semble triompher, et quand toutes ces choses sont là et qu'elles nous agressent et nous troublent. Et c'est la foi. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure de regarder vers Dieu et de dire, Seigneur, je crois en toi. Je ne veux pas m'effrayer. Même si je ne comprends rien, je continuerai quand même à croire en toi. Je regarderai encore vers toi. Je m'appuierai encore sur toi. Voilà, que votre cœur ne se trouble point.
Merci Jean-là pour ce message. Donc, pour la suite, je vous propose un cantique sur la nouvelle naissance, c'est « Tu peux naître de nouveau ». Cette réunion est terminée. Merci à tous.